bonsoir. Vous écoutez bien Radio Canus en 2.2 MHz, la plus rebelle des radios, le Canu Info du lundi 17 février 2014 avec Michel et Jean-Pierre dans les studios et Robert en duplex. Rubrique internationale tout d'abord, peut-être dire quelques mots de ce qui se passe au Venezuela, Robert ?
Oui, il se passe des choses qui sont dans la continuité des tentatives de déstabilisation de ce pays dont le comportement progressiste depuis des années continue d'inquiéter l'Empire américain qui par certains pays interposés comme la Colombie, mais pas seul, et par ses services secrets CIA tente avec sans doute beaucoup moins de violence apparente que ne faisaient les Bush, par exemple, mais tente de faire que ce régime vénézuélien qui continue, malgré la mort de Chavez, qui continue de gêner beaucoup, simplement parce que non seulement il a mis en place des règles de fonctionnement qui privent l'oligarchie et une grande partie de la grande bourgeoisie de ses moyens d'encaisser les revenus du pétrole, mais que ce même pétrole sert à financer aussi bien le social, l'éducation, et puis les comités de quartier, et puis même une partie du pétrole va vers les pays voisins, Cuba, l'Équateur, et puis d'autres peut-être, à des prix dont on va dire qu'ils défient toute concurrence. Avec ce paradoxe qu'une partie du pétrole vénézuélien est vendue au prix fort, c'est-à-dire au prix du marché international, est vendue aux Américains même, qui sont pour l'instant dans la nécessité de s'approvisionner au Venezuela. Donc, eh bien, on utilise naturellement les prétextes habituels, bien connus, la sécurité. C'est vrai que c'est un pays où il y a, hélas, beaucoup de criminalité. On utilise le fait que, ben, des moments, il y a des pénuries de produits, parce que effectivement, il y a des spéculations qui se développent. Naturellement des spéculations non autorisées et même souvent condamnées et durement réprimées par le pouvoir. Et puis il y a aussi cette situation d'une bourgeoisie qui supporte mal de devoir voir à ses limites territoriales et bien se monter un pays avec des gens qui sortent des bidonvilles, qui sortent de l'analphabétisme, qui sortent de la misère, et ça, évidemment, ça les gêne beaucoup. Alors, à partir de là, on utilise des prétextes. Là, on met en avant les étudiants. Ça fait toujours bien de dire les étudiants sont dans la rue. On a connu ça en France, les étudiants dans la rue, mais effectivement, à l'époque, les étudiants français, pour ne faire que cette petite rapide parenthèse, étaient contrôlés, on va dire, par des directions anti-impérialistes, anti-capitalistes, la plupart du temps. Et donc, quand les étudiants étaient dans la rue en France, dans les années 65 et même des années 60, c'était autre chose que simplement des étudiants qui, prétendant réclamer la liberté, en fait, réclamaient surtout le changement de régime et puis retour en faveur de leur classe sociale au Venezuela comme ailleurs. À une époque, dans d'autres pays, comme le Moyen-Orient, ça s'est fait, on a utilisé le concept d'étudiant. Par exemple, ces fameux étudiants talibans, hein, on croyait, oh là là, ces étudiants talibans, ça allait être les grands vainqueurs de l'Empire soviétique. Mais en fait, c'était des gens qui n'avaient que peu à voir, au contraire, avec la liberté. Et puis on peut parler aussi des étudiants, on a vu ça dans toutes les révolutions qui ont balayé les anciens systèmes communistes de l'Union soviétique. Et le dernier en date, c'est l'Ukraine, où aussi on a parlé des étudiants qui étaient dans la rue. Alors là, ça allait chauffer, les étudiants sont dans la rue. Voilà, c'est le Venezuela qui se défend, qui est appuyé par les pays voisins, Nicaragua, Équateur, Bolivie, et puis toute la structure qui avait été mise en place, les Cubains aussi, mais les Cubains, ils sont obligés d'être prudents, parce que on dit toujours, ah, c'est les Cubains qui sont derrière, ah, les Cubains, donc, ils appuient, ils soutiennent naturellement, ils soutiennent Maduro et l'actuel pouvoir vénézuélien, mais ils le font avec beaucoup de discrétion. Voilà ce qu'on peut dire. Je pense que le rapport de force ne devrait pas changer dans la région, mais néanmoins, c'est une fois de plus une tentative de renverser le progressiste qui est en cours dans l'ensemble du continent latino-américain.
Oui, Michel, tu veux rebondir là-dessus ou...
Oui, juste rappeler que c'est ni la première ni la dernière tentative. Hein. On se souvient tous effectivement de la destitution de Chavez en 2002. Quelques jours, le peuple est redescendu massivement dans la rue et les putschistes ont été obligés de plier bagage. Juste à rappeler que Maduro donc a fait expulser quelques diplomates états-uniens donc suite à ces affaires donc et que malheureusement les États-Unis pour eux qui pensaient que le chavisme, la révolution bolivarienne allait durer autant que son dirigeant, se rendent compte effectivement que ça perdure. Hein. On nous présentait Maduro comme quelqu'un de peu de charisme, hein, l'homme qui se balade 24 heures sur 24 en survêtement. Ça le faisait pas, il était moins effectivement hype, moins trendy que Capriles, ce jeune loup de bonne famille qui était un progressiste, hein, non pas du tout de droite, hein. Et ben non, dans les urnes, c'est le peuple a compris les acquis du chavisme et a continué à voter donc pour le parti bolivarien. Donc si ça marche pas par les urnes, il faut bien faire descendre massivement et inciter effectivement quelques-uns à descendre et à provoquer des troubles et essayer d'amener le gouvernement Maduro à la faute, hein, nous le faire passer une fois de plus comme un gouvernement qui est antidémocratique. Et bien malheureusement, le chavisme, ses acquis, ils se défendent tous les jours et il faut défendre ce gouvernement Maduro qui est loin d'être parfait. Hein. Le chavisme, c'est pas une idéologie qui marche, etc. Tu l'évoquais, le problème de l'insécurité qui est persistante, mais bon, parce qu'on appuie aussi là-dessus. On dit effectivement que le Venezuela, c'est le numéro un en question d'insécurité en Amérique du Sud, mais on s'est bien gardé il y a 20 ans de nous dire que c'était la Colombie quand elle flambait. Hein. Donc là, le gouvernement pro-américain, avec toute sa légitimité, malgré donc l'insécurité persistante en Colombie. Bon, aujourd'hui, il est clair que c'est un exemple hein, pour les autres pays d'Amérique centrale, Amérique du Sud, la Bolivie. C'est un exemple d'émancipation de la tutelle états-unienne et donc il a besoin donc de notre appui et il a surtout pas besoin qu'on suive les médias dominants français hein, qui nous continuent à nous présenter donc le Venezuela comme une pseudo-démocratie.
Voilà, sur ce sujet, important de le souligner parce que il est tellement maltraité, au deux sens du terme, par les autres médias que ça vaut le coup de mettre un peu les pendules à l'heure. Quoi. Autre sujet, la Syrie peut-être, par exemple, avec Genève 2, c'est fini. Une semaine pour rien, il n'y aura sûrement pas de Genève 3, en tous les cas on ne nous l'annonce pas. Brahimi en est à s'excuser, pas de dialogue possible. La transition politique demandée est exclue par les gens de Bachar, et qui considèrent toujours les délégués de l'opposition comme des terroristes, au point de capturer ceux qu'il peut attraper quand il rentre au pays. Du côté de l'ASL, crise aussi, puisque limogeage du présumé chef qui était le négociateur en chef, en tout cas à Genève. Et on a l'impression que les gens qui sont sur le terrain, du nouveau dirigeant nommé s'appelle Abdellah Albech, ils reprennent la main et on ne négocie plus, on tire à outrance, quoi.
On négocie plus, on tire à outrance, encore faut-il savoir sur qui on tire. Le problème de la Syrie aujourd'hui, il est là, c'est-à-dire l'armée syrienne libre ne représentait plus grand monde hein, d'un point de vue opérationnel sur le terrain. Ils étaient plus présents à Genève ou dans les officines des chancelleries occidentales, hein, donc c'était... sur eux que les Occidentaux s'appuyaient pour mettre en place leur transition démocratique. Aujourd'hui, avec l'émergence des factions donc djihadistes, salafistes, al-Nusra, ou ceux affiliés de près ou de loin à Al-Qaïda, on se rend compte effectivement que l'ASL, on continue à la faire vivre sur le papier, mais de fait elle n'a plus aucune espèce de pouvoir opérationnel sur le terrain, et d'autant plus qu'on nous tait les successions donc de revers militaires des insurgés face à l'armée régulière de Bachar al-Assad. Cet état de fait qui explique aussi le peu d'empressement de la délégation officielle syrienne à Genève 2 à vouloir négocier, puisqu'elle est en position de force sur le terrain, donc pourquoi, à quoi bon. Et ça explique aussi qu'on a mis un terme donc à Genève 2 assez rapidement finalement, alors que on pensait au départ que ça, après tout, les pourparlers de paix entre Israéliens et Palestiniens durent encore, 30 ans après, on s'est dit que on va persévérer, mais de fait, les Occidentaux ne le veulent pas, les États-Unis ne le veulent pas. À tel point qu'on se pose la question de savoir si nous prépare pas donc eux qui s'étaient gardés d'intervenir militairement au mois d'août, au mois de septembre de l'année dernière, qui nous prépare pas par le sud donc de la Syrie, par la Jordanie, une croisade contre Bachar al-Assad. C'est-à-dire là de fait on a eu le roi Abdallah de Jordanie qui s'est rendu cette semaine en Californie, qui a été reçu par les responsables américains, et on en est donc à spéculer sur l'implication donc de la Jordanie, déjà qui est très impliquée mais directement donc de ses armées dans une aide plus que logistique donc à la rébellion syrienne dans le sud du pays. En gros donc l'invasion soutenue par les États-Unis de la Syrie par les troupes jordaniennes dans les mois, donc ou bien au printemps ou bien alors lorsque les grandes chaleurs seront passées en mois de septembre ou au mois d'octobre. Toujours est-il que voilà, de nouveau on est sur cette volonté de mettre pression sur le régime de Bachar al-Assad en s'unant donc ces crimes commis sur le terrain, et dans le même temps sur l'option militaire qui revient de plus belle. On n'a qu'à regarder un peu les commentaires officiels dans la presse anglo-saxonne, de plus en plus d'essayistes occidentaux nous font comprendre que il n'y a pas d'option politique pour l'instant, donc il faut résoudre le problème d'un point de vue militaire.
Voilà, tu voulais rien ajouter, Robert ?
Non, mais je peux peut-être étendre la question, parce que les choses sont assez liées dans cette région dévastée par les luttes internes à l'impérialisme. C'est ce qui vient de se passer au Liban, et c'est une bonne nouvelle, puisque le Liban a réussi à mettre sur pied un gouvernement. Alors, comme toujours, c'est un gouvernement très dosé. Il est à la fois confessionnel, mais en fait, ça dépasse un peu le côté confessionnel, dans la mesure où les zones de passage entre les différents groupes qui appartiennent soit au camp chrétien, soit au camp musulman, eh bien, on va dire que les frontières ne sont plus aussi strictes qu'elles étaient par le passé, conséquence effectivement de ce qui se passe notamment tout autour, à commencer par la situation en Syrie. Alors ce nouveau gouvernement au Liban est établi par trois tiers, un premier tiers c'est la composante Hezbollah qui aurait donc 8, c'est pas 8, hein, qui aura donc 8 ministres ou qui peut désigner 8 ministres, soit par miliciens, soit par des techniciens proches. Il y aura la composante donc sunnite avec la famille Hariri, Saïd le fils, également 8 ministres. Et puis la troisième composante de ce gouvernement, c'est autour du président Sleiman, et ce sont surtout des chrétiens. Alors ça, c'est les chrétiens, mais c'est aussi les druzes de Jumblat, et puis d'autres composantes plutôt proches effectivement du monde chrétien. Voilà, alors tout ça, c'est un gouvernement qui a déjà un premier objectif, c'est de restaurer l'autorité, et afin notamment de pouvoir préparer, ce qui ne va pas être facile, l'élection présidentielle qui est prévue dans quelques mois, et qui va peut-être conduire encore à des périodes dures si des attentats ont lieu. Enfin, on est quand même à la fois surpris parce que on avait dit ça, c'est fini avec ce qui se passe en Syrie, le Liban, il est en petits morceaux, il va se diviser, il va éclater, et puis ça va être la guerre civile au Liban. Pas du tout, il y aura au moins pour l'instant il n'y aura pas de guerre civile au Liban. Le Liban qui doit faire face à 900 000 réfugiés syriens, 900 000 réfugiés, c'est-à-dire à peu près c'est l'équivalent de 20% de sa population. On voit donc dans quelle situation est ce pays. Bon, évidemment, les secours humanitaires internationaux arrivent, et puis arrivent tant bien que mal, peut-être plus facilement qu'en Turquie qu'en Jordanie, peut-être favoriser un moindre mal pour ces 900 000 réfugiés. Enfin, la nouvelle est intéressante, elle mérite d'être signalée compte tenu de ce que je disais au départ, c'est-à-dire cette caricature qu'on donnait en général du Liban comme quelque chose qui est victime de Bachar el-Assad allait être réduit à une extension du conflit.
Oui, la situation reste toujours très très fragile au Liban. Donc là, on a un gouvernement, si j'ose dire, qui a l'image du Liban, du pays, donc de compromis. Hein, les chiites, qui démographiquement parlant, sont la majorité relative hein, aujourd'hui au Liban, alors que ce n'était pas le cas il y a 40 ans en arrière, ont compris qu'il ne fallait pas trop non plus qu'ils se mettent en avant. Ils ont compris qu'il fallait gouverner avec les autres, les sunnites aussi. Donc ce gouvernement, donc j'espère hein, qu'il va réussir donc à maintenir le calme, la paix, mais faut pas oublier que certains des milices du Hezbollah aujourd'hui sont en train de guerroyer juste de l'autre côté de la frontière en Syrie. Il en est de même avec certaines factions sunnites. Donc la chose étonnante, c'est que là où on a compris qu'au Liban il faut surtout pas reprendre les armes, hein, ils ont ce passé douloureux pour eux, donc il aura servi d'expérience. Au quotidien, ils sont en train de s'entretuer juste de l'autre côté de la frontière. Donc le calme reste précaire, c'est-à-dire que pour l'instant, on a décidé effectivement d'un accord commun entre différentes factions. Donc tu mets en avant les sunnites, surtout la famille Hariri, soutenue par l'Arabie Saoudite, hein, les chiites qui sont appuyés logistiquement par l'Iran. Donc chacun il y a cette géostratégie, enfin je veux dire cette géopolitique qu'il faut jamais perdre de vue. Les États-Unis qui ont leur intérêt derrière aussi les sunnites et certains chrétiens donc à faire valoir. Pour l'instant, on a choisi donc ce statu quo. Mais qu'en sera-t-il demain, par exemple, on l'évoquait tout à l'heure, dans le cadre d'une intervention armée occidentale en Syrie qui chasserait les alaouites du pouvoir. Quelle sera la position du Hezbollah ce jour-là? Est-ce qu'elle laissera faire ou est-ce qu'effectivement elle appuierait donc, d'un point de vue militaire ces avantages tout relatifs qu'elle a au Liban? Donc tout ça reste quand même une paix relativement précaire, mais ça va dans le bon sens parce que effectivement tout le monde comprend l'intérêt qu'il y a à préserver cette paix qui est très fragile.
Voilà pour ce sujet, oui.
Oui, je voulais parler peut-être de l'Algérie, parce que l'Algérie entre dans une période difficile pour elle. Elle a normalement une élection présidentielle dans les prochains mois, mais les candidatures, normalement, doivent être déposées au plus tard le 3 mars. Bon, il n'est pas dit qu'effectivement, l'équivalent de la Cour constitutionnelle algérienne retarde cette date butoir pour la déclaration de candidature. Mais le problème majeur, c'est tout est suspendu. Bon, il y a déjà des candidats, mais ils sont totalement minorés, y compris par la presse, parce que tout le monde attend de savoir ce que va décider Bouteflika. Est-ce qu'il va demander un nouveau mandat, alors que son état de santé, en toute bonne logique, ne le lui permet pas. Suite à un accident cérébral, les longs mois passés à Paris en hôpital, et puis sur place, il est très très handicapé à la fois pour se déplacer et pour la parole. Bon, il a, nous dit-on, un fonctionnement de la mémoire et de la tête qui va, mais c'est tout, je veux dire, et c'est totalement insuffisant dans ce pays-là. La question est posée. Alors, dès lors, on voit réapparaître des clivages entre les différentes strates de l'armée. Alors, ça n'est plus effectivement l'armée de l'époque de Boumédienne qui marchait, disons, comme un seul homme. Boumédienne, c'est une armée effectivement qui a vieilli, qui se renouvelle, qui a des vagues successives de jeunes, avec la partie armée classique et puis l'armée, on va dire, celle de, qui fait peut-être le plus sale boulot, c'est-à-dire l'armée chargée des services secrets, qui effectivement doit, elle, notamment, tenter de déjouer les pièges que lui tendent encore un certain nombre d'activistes qui se réclament de l'islam et qui mènent une guérilla encore moins forte que ce qu'elle a été, mais qui se poursuit. Et ces différents strates de l'armée, de la police, entrent en guerre ouverte par voie de presse interposée, ce qui est tout à fait nouveau, avec des accusations très graves, notamment certains généraux n'hésitent pas à mettre en cause, et c'est repris par la presse, ça veut dire que ça n'est même plus possible d'être censuré, mettent en cause Bouteflika, son entourage, son frère, dont on dit que c'est un peu l'imminence grise du pouvoir algérien actuellement. Donc, pour dénoncer donc la corruption, dénoncer les modes d'utilisation de l'argent qui provient du pétrole et du gaz, c'est quelque chose qui va sans doute dans les prochaines semaines avoir des développements qui peut faire craindre effectivement des choses importantes. Alors si le peuple arrive à, mais il n'a plus de vraie représentation, les syndicats, c'est bien comme en Tunisie, mais beaucoup plus faible qu'en Tunisie. Il n'y a que les syndicats, et beaucoup des syndicats ont un temps été complètement intégrés par le FLN, et puis il y a de nouveaux syndicats, mais c'est souvent local, c'est souvent lié à des secteurs industriels, tout ça, mais ça ne donne pas une résistance populaire à ce qu'on peut craindre aujourd'hui de cette guerre de palais qui semble se développer en Algérie.
Oui, Michel, tu as un autre sujet ou part sur l'Ukraine?
Oui.
L'Ukraine, oui, on se calme un peu. 11e dimanche, on fatigue d'une part. Alors, on a même négocié une libération des personnes arrêtées contre la libération de la mairie de Kiev. Une amnistie, mais qui n'est pas aussi générale que ça. Il semble que tout n'est pas réglé. On veut faire du cas par cas. On veut faire sur une durée limitée. Enfin, ça parlemente encore autour de ces questions-là. Et puis, point de vue gouvernement, ben, comme on l'avait déjà un peu évoqué la semaine dernière, ça se confirme même, puisque avant de déposer une proposition de gouvernement de coalition, l'opposition réclame à rencontrer Mme Merkel. Ça va se faire demain, je crois.
Sur l'Ukraine, rien, que dire, si ce n'est qu'on attend de voir maintenant concrètement comment tout ça va se mettre en place. On attend aussi peut-être la fin des Jeux Olympiques à Sotchi pour voir la position de la diplomatie russe. Parce que pour l'instant, hein, toute l'attention des officiels russes est tournée vers leurs Jeux Olympiques. Il ne faut surtout pas que ça fasse de vagues. Mais ce dossier ukrainien donc, concerne au premier chef et Poutine et son ministre des Affaires étrangères, Lavrov. L'Ukraine, ça reste ce champ de conflits géopolitiques aujourd'hui. Alors, on peut parler de démocratie, hein. On peut envoyer Bernard-Henri Lévy nous faire des speeches sur le Maïdan à Kiev, nous vendant l'Europe. Hein. Je ne sais pas si nos éditeurs ont eu l'occasion de l'entendre, de l'écouter. C'était à se pisser de rire, quoi. Toujours est-il que la réalité de l'Ukraine aujourd'hui, de ce conflit-là, elle est attisée par les États-Unis qui se servent de l'Union européenne un peu comme un cheval de Troie pour pousser plus en avant leur intérêt géopolitique et la Russie qui veut que l'Ukraine finalement revienne sous sa sphère d'influence telle qu'elle a été historiquement depuis ses origines pratiquement. Voilà où on en est. Donc on va peut-être attendre et puis on verra dans les semaines qui suivent comment tout ça va évoluer.
Les Olympiques, ça finit samedi, alors rendez-vous la semaine prochaine. T'avais un autre sujet, Ben?
Justement, parler de l'Union européenne et puis on va reparler un peu d'Ukraine. Juste la position de la politique étrangère de l'Union européenne. On a eu cette soi-disant controverse, on en a parlé, hein, de la sous-secrétaire américaine Nuland qui avait sorti lors de cette conversation téléphonique avec l'ambassadeur américain donc à Kiev, qui avait donc fuck the European Union, donc voilà. Et donc sur ce, la position officielle, hein, donc de l'Union européenne, c'était surtout ne pas relever, hein, ne pas demander des excuses. Officiellement, il n'y a que Angela Merkel donc, qui a demandé, effectivement, pas des excuses, mais qui s'était indignée, hein, officiellement. C'est le seul responsable d'un État des 28 de l'Union européenne qui a osé, donc, bon, le plus puissant, mais aussi peut-être parce que, de fait, plus que le fuck European Union, ce qui l'a gêné profondément, c'est de voir que Nuland complotait et plaçait ses pions, et à savoir, mettait de côté Klitschko, qui était l'homme des Allemands, hein, donc sur l'échiquier politique ukrainien, et mettait plutôt le candidat américain. Donc voilà, c'est ça qui l'a gêné. Mais bon, la position de l'Union européenne, c'était surtout pas faire de vagues. Hein, on se fait traiter de tous les noms par par les États-Unis, on ne relève pas, on n'a rien entendu. Hein, puis on regrette effectivement, pareil là, c'est comme Snowden nous a révélé quelques monstruosités, donc on en a voulu à Snowden, donc à celui qui nous a justement mis en avant donc ces manquements donc aux principes démocratiques là, on en veut, hein, on a aucune preuve au service secret russe qui aurait mis en ligne donc ces écoutes. Et il en est de même avec l'épisode donc de mercredi mardi dernier où le président du Parlement européen donc Martin Schulz était reçu en Israël donc et dans les territoires occupés et après en Israël à la Knesset et avait pas manqué donc de relever cet état de fait qu'il jugeait discriminatoire, hein, pour pas dire une forme d'apartheid de l'eau, entre les 600 000 colons donc israéliens juifs, hein, dans les colonies qui disposaient de 3 à 4 fois plus d'eau que les 2 millions, 3 millions de Palestiniens qui était de fait complètement discriminé. Bon, avoir juste relevé cet état de fait, ça lui a valu de la part donc d'une grande majorité donc des parlementaires à la Knesset donc des noms d'oiseaux. Certains ont quitté la salle, mais bon, pourquoi pas, hein. Ça, j'en veux pas, après tout, aux représentants de la démocratie israélienne, mais j'en veux énormément, effectivement, au manque de soutien et des dirigeants donc des pays européens et de Barroso, hein, qui est plus en train de donner des leçons en ce moment aux Écossais en les menaçant, effectivement, de les faire sortir de l'Union européenne si jamais ils votaient pour l'indépendance, que de soutien donc au président du Parlement. Donc, cette Union européenne, cette Europe, hein, qu'on nous vend là en ce moment, que BHL essaie de nous vendre sur la place de l'indépendance à Maïdan, à Kiev, cette Europe est complètement vermoulu, hein, dans le sens où elle n'est plus porteur, enfin plus personne n'y croit, on voit bien, hein, on parle des municipales, mais les européennes qui se profilent derrière vont avoir de toute évidence donc des taux d'abstention records, hein, depuis que ces élections existent, et dire effectivement le manque d'engouement, parce que de fait on se rend compte effectivement qu'on c'est un grand machin, hein, qui est au service d'une oligarchie, au service de lobbying qui se font à Bruxelles, et qui est une forme de cheval de Troie aussi pour les intérêts des Américains. Et tant que on n'aura pas donc de volonté politique pour s'émanciper donc de la tutelle américaine, et ceci ça passe effectivement par la sortie de l'OTAN, la création d'une vraie armée européenne, si vraiment on la veut, pour avoir une puissance politique, pour avoir donc notre mot à dire sur la scène internationale. Donc juste relever encore une fois de plus cette énorme contradiction entre cette schizophrénie, entre la volonté qu'on affiche effectivement de grandeur européenne et le peu de moyens qu'on s'accorde, et surtout notre totale incapacité à avoir une position donc commune dès lors qu'un de nos dirigeants, comme c'était le cas de Martin Schulz donc à la Knesset, juste sorte quelques vérités de base, quoi.
Voilà. Cette Union européenne qui va, dans quelques jours, accueillir un petit nouveau. Ce sera Renzo qui va former le nouveau gouvernement italien.
Renzi.
Vent, maire de Florence, Renzo.
Renzi. Renzi.
C'est Renzi, oui. Mm. Bon, Renzi pour Renzi. Et qui va donc, dit-il, sortir de l'austérité italienne pour impulser un modèle de croissance et de retour à l'emploi. Enfin, c'est déjà son credo, ce qu'il a dit, pour justifier qu'il fallait mettre fin au gouvernement d'union nationale qui précédemment était dirigé par quelqu'un de son même parti, du Parti démocrate.
Ok, que dire effectivement de Renzi, si ce n'est effectivement qu'avant tout il bosse pour lui, quoi. C'est un jeune loup avec voilà, cette ambition dévorante qui le fait comploter au sein de son parti pour se faire élire président donc du conseil. Mais de toute évidence là il va pas avoir d'autre choix que de trahir la gauche, puisqu'il va gouverner avec le centre droit. Il va gouverner de toute évidence, on attend de voir, mais le gouvernement donc qui s'apprête à nous présenter avant la fin de la semaine, hein, ce sera un gouvernement qui sera déjà manipulé par Angelino Alfano, donc berlusconiste, hein, et ses proches, et donc qui de toute évidence fait le jeu de Berlusconi et de la droite, parce que ceux-ci ont dit, ils ont compris effectivement que Renzi ne peut pas gouverner avec ce qu'ils appellent l'extrême gauche, ou avec la gauche un peu radicale du parti démocratique. Et donc on, une fois de plus, il y a un recentrage encore plus à droite que le gouvernement Lenta, et de fait on peut déjà parier sur le gouvernement Renzi. Ce sera comme tous les autres, hein, il ne va pas durer ad vitam aeternam, et on l'aura déjà oublié d'ici l'année prochaine, d'ici 2 ans.
Une fois qu'il sera installé à Rome, il arrêtera de rayer les parquets de la galerie des offices avec ses dents, oui. C'est déjà ça. S'il n'y a rien de très urgent, on va peut-être arrêter là pour garder un peu de place pour la rubrique nationale. Je vous propose une courte pause musicale avec Natacha qui chantera à Léo Ferré son spectacle Lumière Noire vendredi à la MJC du Rancy. Allez, le temps du tango.
Moi je suis du temps du tango, même les durs étaient dingos de cette fleur du guinche exotique. Ils y paumaient leur énergie, car abuser de la nostalgie, c'est comme l'opium s'intoxique. Costume clair et chemise blanche, dans les sous-sols du Mikado. En avalanche, et on offrait comme un cadeau rondeur du sein et de la hanche pour qu'on nous fasse danser le tango. Celle qui venait là, faut pas se tromper, c'était de la belle petite poupée, mais pas des filles ni des mondaines. Et dame, quand on a travaillé 6 jours entiers, on peut se payer. Par hasard et sans manière, le coup de Péguin venait bientôt. Je me donnais, c'était sincère. Ah, oh, ce que les hommes ont pu me plaire. Est-ce que j'ai plu, j'avais ce qu'il faut. Faudrait pouvoir faire marche arrière. Comment on fait pour danser le tango? Des tangos, il y en avait des tas. Mais moi, je préférais Violetta. C'est si joli quand on le chante. Tendre et costaud, serré de près ma taille fine. J'étais la reine de l'Argentine et lui, c'était mon Hidalgo.
Léo Ferré, mais aussi Jean-Roger Cossimon, faut pas l'oublier, c'est lui l'auteur de ce texte ancien, mais qui garde sa forme. Natacha, donc vendredi à l'MJC du Rancy. Pour la rubrique nationale de ce Canet Info du 17 février 2014, on va peut-être ouvrir sur ces grands patrons dont l'héroïsme est sans limite, au point qu'ils acceptent de travailler le dimanche à Matignon sur invitation de Hollande. Les Bricorama ne peuvent pas travailler le dimanche, mais les patrons aussi, ils étaient 26. Valeo, Siemens, General Electric, Nestlé. Ça s'appelle le Conseil stratégique de l'attractivité. Il fallait le trouver, ça. C'est Chirac qui avait trouvé ça en 83, ça fait quand même 30 ans. Il n'avait jamais fonctionné depuis, ce Conseil stratégique de l'attractivité. Et Hollande, il a été chercher ça, lui. Donc le but, il paraît qu'il y a moins d'investissements étrangers en France, donc il faut leur expliquer comme on est beau, comme on est gentil, comme on est prêt à faire des efforts tout azimut, et ça, c'est vrai qu'on en fait pour les patrons. Et donc, la réunion, elle a encore continué aujourd'hui, puisque je crois qu'ils se séparaient ce soir. Voilà, vous avez peut-être... Robert, tu voulais en dire plus ou sur autre chose, hein?
Peut-être, je voulais parler de cet coup de tonnerre qui s'est passé au sein de la région Île-de-France, où par une délibération, eh bien, une majorité de gauche avec les Verts et donc Parti communiste, Parti de gauche, les Verts, et puis l'abstention de la gauche socialiste, eh bien, a demandé, a exigé même l'arrêt des négociations concernant le traité de libre-échange, ce fameux grand marché transatlantique, cette négociation opaque qui se déroule depuis plusieurs mois, pour ne pas dire plusieurs années, et qui devait au mois de juillet se conclure. Enfin, une première étape devait être annoncée au mois de juillet, qui concernait surtout le libre-échange des marchandises. Mais on sait que c'est toute une série de questions qui sont mises sur cette table secrète, y compris les services publics et puis beaucoup d'autres choses, y compris d'ailleurs l'éducation nationale, enfin la privatisation totale pour l'Europe, afin de pouvoir être adaptable et adapté au système américain. Voilà, donc ce coup de tonnerre ne va pas être sans lendemain, d'autant qu'on sait que Hollande a discuté de cette question du grand marché transatlantique avec Obama la semaine dernière, et que Hollande apparaît comme quelqu'un qui veut que les choses aillent vite, que ce traité soit, dans sa première phase, conclu dans les délais les plus courts. Et bien, le voilà mis en minorité, au moins dans quelque chose qui est très symbolique. L'Île-de-France, c'est quand même pas n'importe quoi comme région en France.
Voilà, on a le choix entre beaucoup de lois qui sont en train de se discuter au Parlement, entre autres une sur le transgénique, où ça fait un peu désordre, parce qu'entre les Européens qui votent le feu vert au TC1517 de Pionnier, maïs transgénique, et la France, le Parlement qui veut voter rapidement une loi pour éviter cette année la mise en culture de ce produit, une loi qui risque d'être toquée par le Conseil d'État, mais enfin ça prendra du temps, les écologistes, pseudo-écologistes du gouvernement, estimant que peut-être les élections européennes, une fois passées, seront plus enclines à refaire une autre loi sous l'initiative des Français et des Allemands en particulier, pour limiter l'utilisation de ces produits. On sait que le débat est, pour les juristes de l'OMC, la question de la clause de sauvegarde qui ne pourrait s'appliquer que sur des produits réputés dangereux. Or, pour eux, c'est pas évident que le maïs en question soit dangereux. Enfin, bref, vous voyez pas mal de va-et-vient et de salades et d'affrontements autour de cette question. Pour le moment, ce serait l'anti-OGM qui tient à peu près la rampe dans notre pays, mais c'est pas gagné, quoi. Voilà, une autre loi, Robert, tu voulais parler de la loi Hamon,
hein? Oui, en fait, parler de cette loi qui, effectivement, va sans doute permettre... elle est votée maintenant, donc elle va faire l'objet de décrets d'application, qui va permettre à des associations, on pense par exemple aux associations de consommateurs, mais il y en a d'autres, d'ester en justice, alors que jusqu'à présent, pour pouvoir suivre des dossiers et alimenter des plaintes, eh bien, ça se faisait que sous la forme individuelle d'un nombre de gens. Ça donnera un peu plus de force, sans doute, au pouvoir consommateur, Bon, c'est un, c'est pas, on peut mettre un peu n'importe quoi d'ailleurs, cette terminologie pour voir le consommateur, il y a le meilleur et le pire. Mais enfin, toujours est-il que c'est considéré comme, comme une avancée, mais cette avancée est un peu la copie conforme de ce qui se passe aux États-Unis. Donc, si, c'est, si on veut avoir un rapport consumering comme il existe aux États-Unis, au bout du compte, quand on fera le bilan dans quelques temps, ce ne sera pas forcément beaucoup mieux.
Il va falloir que tu attrapes le chat, tu as dans la gorge, et à défaut de l'envoyer contre le mur, de le mettre à la cave.
Hein. Oui, ben non, de toute façon, on est surveillé, maintenant on ne peut même plus jouer avec les chats.
Un autre volet de cette loi, c'est le financement participatif, dont on ne sait pas s'il faut penser des bonnes choses ou des pas trop bonnes, qui va permettre à des individuels de jouer le rôle de banquier auprès d'entreprises plutôt petites, en se portant prêteur pour des opérations, des investissements dans des petites entreprises que les banques ne veulent pas faire. La loi limite quand même à 10 millions par entreprise, ce qui est pas mal, le maximum qui peut être collecté comme ça, et à 1 000 euros par particulier. Donc les banques vont sûrement faire la gueule et faire quelque chose pour arrêter cette opération qui se ferait sans eux. Et puis on peut dire un mot de la loi Florange aussi, dont il reste pas grand-chose, c'est sans doute pour ça qu'on va la voter, puisque si au départ ça devait forcer les gens qui liquidaient des grandes entreprises de plus de 1000 salariés à chercher impérativement un repreneur avant de la liquider, là c'est devenu simplement qu'ils ne doivent pas trouver un repreneur, mais en chercher un pendant 3 mois. À partir du moment où vous n'avez pas d'obligation de le trouver, ce n'est jamais qu'une procédure pour reculer de 3 mois les affaires en cours, quoi. Et il y a aussi une pénalité, elle est hallucinante, la pénalité, 20 fois le SMIC par salarié viré, c'est pas mal, mais par contre, il y a une limitation à 2% du chiffre d'affaires de l'entreprise, donc ça va, ça ira, quand il y a 1000 salariés, on pourra être bien en dessous de ces 20 SMIC. Voilà, il y a aussi une harmonisation, une loi Assouline, celle-là, de la TVA entre la presse écrite, qui était à 2,1%, et la presse, l'information, on va dire Internet, qui était à 20%. Il y a eu des polémiques, il y a même eu des gens qui sont passés outre. Mediapart, comme ça, doit 1 million d'euros au fisc, en s'étant mis à 2% d'emblée. La loi, donc, va permettre que tout le monde soit à 2,1. Par contre, est-ce qu'elle aura un effet rétroactif et que les amendes du fisc qui sont déjà délivrées ne seront pas recouvrées? Ben, la loi ne le dit pas, en tout cas. Voilà, autre sujet, notre ami Mélenchon qui s'énerve un petit peu après ses amis communistes. Il a dit que pour les municipales, ça allait bien, mais qu'il ne faudrait pas que ça continue et il serait mieux que ça s'arrête là, et que pour les européennes et surtout l'année prochaine pour les cantonales, on n'applique pas les mêmes règles et que les communistes n'aillent plus s'allier avec les socialistes.
Les régionales, je crois.
Les régionales, oui. On aura l'occasion de reparler des cantonales,
oui.
Parce qu'il y a un bouleversement total qui va changer complètement la nature du Sénat. Aujourd'hui, on a vu dans le Progrès, pour le Rhône, donc, il ramène 13 cantons, je crois, et en rééquilibrant les cantons qui allaient de 1 à 12 en population, à 1 à 4,3, ce qui change beaucoup de choses. Et en principe, en général, au détriment de la droite, puisque c'était ces cantons paysans qui votaient à droite, qui étaient très peu nombreux, mais qui avaient beaucoup d'élus, quoi. Et en plus, on a remplacé, il faut que les élections se feront par binôme, c'est-à-dire dans chaque canton, un homme, une femme, donc il y aura moins de cantons, mais 2 candidats par canton. Donc pour le Rhône, ça fera 2 fois 13, 26 candidats, donc forcément 13 femmes, ce qui là aussi fait tirer la gueule à un certain nombre de partis qui n'ont pas de femmes politiques en réserve en nombre suffisant. Mesdames, motivez-vous.
Sur le plan social, on relèvera que la négociation pour l'indemnisation des chômeurs, négociation qui a démarré la semaine dernière, ben, se poursuit cette semaine. Et la mobilisation des associations de chômeurs comme AC ou comme le MNCP ou API, c'est bien reste très vigilante parce que le patronat souhaiterait que l'on revienne à la dégressivité. La dégressivité, pour rappeler ce que c'est simplement, c'est que au fil des mois au chômage, eh bien, les indemnités baissent. Et le bilan de cette histoire sombre du passé de cette pratique, eh bien, avait montré que ça n'avait en aucun cas conduit à faire que le chômage diminue. Selon effectivement la fausse logique patronale et de droite qui pense que les chômeurs sont des paresseux et que s'ils n'ont plus d'argent du tout pour vivre, ils vont bien être obligés de retourner au travail. Bon, donc la bataille contre ce retour à la dégressivité des indemnités et quotidiennes par à la fois la gauche et surtout les associations, les syndicats, les associations de chômeurs. Je peux dire peut-être un mot aussi rapide du comportement, pour le moins paradoxal, sinon scandaleux, s'agissant d'un socialiste. Il s'appelle Migaud. Sarkozy l'avait mis à la tête de la Cour des comptes, et depuis qu'il est à la Cour des comptes, il n'arrête pas de pointer les dépenses qu'il estime anormales, toujours du même côté, c'est-à-dire il ne voit des dépenses et donc des économies à réaliser sur les services publics, de la part des collectivités locales, et puis sur la caisse sécurité sociale, et puis même sur des petits aspects, comme par exemple pointe les salariés de la SNCF qui continuent de bénéficier de réductions concernant eh bien, leur voyage en SNCF. Et ce personnage, eh bien, et comme on l'a dit au tout départ, c'est un socialiste qui, ayant tellement retourné sa veste qu'il n'arrête pas de s'aligner sur tout ce qu'il peut y avoir de plus à droite dans l'analyse que peut faire la Cour des comptes en matière de dépenses, quelles qu'elles soient.
Voilà, on arrive au terme du journal. Je t'arrête un peu, Robert. Juste rapidement, deux annonces. Alain Bert, Valérie Gilles et Pierre Tarrard, metteurs en scène et sur scène pour jouer Bataille de Topor et Jean-Michel Ribes. C'est à l'Espace 44 cette semaine, de mardi au 23, c'est-à-dire à dimanche. Et puis Gérard Mémon sera à Bebelart, c'est 28 rue Anatole France, Villeurbanne, pour un concert, repas, puis de nouveau concert et danse, tango dans le deuxième concert. Réservation sur Bebelart, gmail.com, participation frais 15 et 12 euros. Voilà, j'en dis pas plus. Ce journal sera rediffusé demain matin à 8h. Vous pourrez le réentendre sur Internet. Nous vous donnons rendez-vous lundi prochain également à 20h. Et puis, ne quittez pas l'antenne. Bonsoir.